La maison magnifique. La maison que je construisis pour Madame de Sérans était grande et magnifique. Les plus nobles carrières en fournirent la pierre et le marbre. Le bois en vint des plus belles futaies. L'architecte, un vieillard chauve et sbarbate, agissait selon d'anciens préceptes. À la science de la bâtisse, il joignait l'entente des jardins. Il excellait à disposer les eaux tant plates que jaillissantes. Il savait planter les bosquets, enchevêtrer les labyrinthes et faire tourner aux fêtes des toits les girouettes les plus ingénieuses. Après avoir choisi l'orientation et composé les perspectives, son art s'étendait aux détails intérieurs. Derrière l'aspect des façades, il agençait le secret des appartements. Lustre pendant au plafond comme des stalactites, des grottes rustiques, tapis doux comme des gazons, teintures fleuries comme des parterres, miroirs purs comme des bassins. Tout le jour, on le voyait s'empresser, franchissant les tranchées, escaladant les échafaudages, sous la pluie ou le soleil, à la suite des jardiniers ou des maçons. Le heurt des bêches se mêlait au bruit des marteaux. La poutre équarrie croisait la pierre taillée. De grands arbres, avec leurs branches, venaient en oscillant, racines tendues, s'implanter et revivre dans la terre nouvelle qui les recevait. Les statues passaient, traînées par des attelages de bœufs, et chaque soir, au couchant, l'ombre de la maison grandissait de l'ouvrage de la journée. Le vieillard sbarbate ordonnait tout, la pose des pierres, l'ajustement des boiseries, le sablage des allées, l'étillage des bassins, quinconce et guilloché, infatigable, le compas à la main, les plans déployés, heureux de créer encore une fois une œuvre de cette architecture qu'il aimait passionnément et dont la mode d'alors s'éloignait pour préférer à ses savantes symétries les improvisations d'un goût disparate. Sa manie, d'abord avec mon désir, s'évertuait à hâter les travaux qui devaient prendre fin à une date convenue. À ce jour fixé d'avance, il fallait que tout fût prêt, que les fleurs embaumassent les parterres entre les buis des allées et les pyramides des houes, l'obélisque des ifs debout au rond-point, le sourire des statues à leur visage de marbre, leurs pieds nus foulant les socles enguirlandés, les eaux impatientes de lancer leurs fusées, d'épanouir leurs gerbes, de déborder leurs vasques, d'emplir tout le jardin de leurs murmures délicieux. Il fallait que toutes les clés fussent à nouveau, toutes les portes les appliquent au mur, chaque chose à sa place, dans sa perfection et sa minutie, avec les vins et les fruits servis sur la table, et partout les miroirs que j'avais voulu nombreux et beaux pour refléter au passage le sourire divin, la chevelure nocturne et le bord gracieux de l'incomparable Madame de Sérans, dont la mystérieuse beauté allait se voir en eux une fois et pour jamais. Jamais plus belle journée ne brilla. Dès l'aube, les râteaux parfirent les allées, les arrosoirs emperlèrent les fleurs rafraîchies. L'air était doux, pur et léger. Une après-midi de fin d'été s'augurait radieuse de ce clair matin. Le soleil tiède caressa les statues et attendrit leur marbre. Les bassins miroitèrent. Pas une feuille ne devait tomber, pas une rose se défleurir. On n'avait laissé que les plus fortes et leur maturité vigoureuse garantissaient leur durée. À midi, je m'avançai à la grille pour recevoir Madame de Sérans. Elle descendit de sa voiture et je lui baisai la main. Je la remerciais de sa venue et je lui rappelais sa promesse. Elle souriait doucement. Il y eut un moment de silence et elle me tendit les trois roses qu'elle portait selon sa coutume. Je les pris et, l'ayant saluée, je m'éloignai d'elle et de la maison magnifique. Trois fois, je me retournai en baisant chacune des trois fleurs et à chaque fois, je la vis qui me regardait. Madame de Sérance a marché seule dans l'avenue. Les grands arbres l'accompagnèrent un à un, silencieusement. Au bout s'ouvrait la perspective des jardins. Ils étaient vraiment admirables. Les masses des verdures disposaient une ombre fraîche. Trois joueurs de flûte se répandaient au fond du labyrinthe. Cachés dans la conque compliquée de dédale, les eaux jaillissantes embellissaient le silence de cette solitude, mais seules les statues ont souri à la belle visiteuse. La maison montrait sous son fronton des colonnes de porphyre. Madame de Sérance est entrée dans le frais vestibule. Les chambres s'offrent tour à tour à sa promenade silencieuse. Il s'en trouvait de simples, d'autres somptueuses, petites ou grandes, faites pour l'amour, le sommeil ou la rêverie, pour y méditer une joie ou y accorder une tristesse. Madame de Sérance a passé la journée dans la maison magnifique. Derrière un perron descend un jardinet. Rien qu'une allée autour d'un gazon vert où dort un carré d'eau. Deux petits sphinx de terre cuite s'y mirent. Aux angles, de grands cornets de cristal font des orbes de roses trémières qui fleurissent de singulières fleurs d'eau issues d'un calice transparent. Le soir vient là délicieusement. Le soir y sera venu. Dans la haute salle à manger, la table présentait un souper servi de meilleures viandes, de confitures et de fruits. C'est de là, et laissant encore dans une pêche la trace de ses dents souriantes, que Madame de Sérance sera remontée pour dormir. Tous les miroirs la virent certes, et l'un d'eux la refléta nue, et garde à jamais en son cristal l'image invisible de celle qui, contre moi, avait joué et perdu son ombre. En ce temps-là, j'ai été joueur et joueur heureux. D'après un vieux précepte de superstition, je ne manquais point d'enfermer mon or dans une bourse faite de peau de chauve-souris. Je croyais moins à la vertu de cette bizarrerie que je n'en goûtais la singularité. Je me plaisais à maints traits baroques en vue d'ajouter à mon caractère ce qui pouvait le rendre curieux tant aux autres qu'à moi-même. Chaque soir, donc, je me trouvais à la maison de jeu ou à quelque endroit où l'on joua. Le jeu privé et le jeu public se partageaient une vogue égale. Le troupeau regorgeait, car la passion des dés et des cartes répandue jusqu'à la frénésie attirait aux tables vertes la compagnie la plus brillante. Les doigts velus des hommes se crispaient sur les tapis où s'allongeaient les mains diamantées des femmes. L'attente y haletait sur des lèvres charmantes où y bavait sur des bouches hideuses. La perte s'attristait en moue gracieuse ou en lip refrognée. L'or crépitait et l'on entendait dans le silence intermittent la culbute des cornets et le vol furtif et augural des cartes. L'or des gains s'infiltrait dans les veines environnantes où la perte creusait les fissures. Il se créait des vénalités subites ou sournoises, les unes inattendues, les autres épiées. Troués ou lézardés, les consciences croulaient ou s'émiettaient. L'or circulait de main en main pour l'assouffissement des désirs. Il y avait marché en camp et marchandage. Chacun cherchait à vendre quelque chose ou à acheter quelqu'un. Certains gagnaient sur l'entremise, beaucoup spéculaient sur le besoin, tous trichaient sur la qualité. Toute passion pouvait se satisfaire, pourvu que la chance la favorisât. Jeunes hommes, fardés et languissants, femmes viriles et cavalières, négociaient leurs caresses interverties. Les sottes de la richesse, sa caducité et son improviste donnaient à tout souhait la brusquerie de sa rate. Les plus heureux se fatiguaient de leur bonheur par la monotonie de sa durée. Les fantaisies s'exaspérèrent. On en vit de monstrueuses. On cherchait par une sorte d'émulation stupide à se surpasser les uns les autres en excès, ou le plaisir de les faire entrer pour moins que la vanité de les avoir faits. Ce fut un temps de grand désordre et de singulière débauche. J'en pris ma part et les exemples que je donnais restèrent fameux. Si nous ne voyions pas poindre l'aube aux bougies consumées des parties, l'aurore nous surprenait dans le vin ou l'amour. Nous constations alors la duperie de notre double ivresse. Elle sommeillait autour de tous. Chair lasse et cheveux dénoués, cadavres des fantômes qui nous avaient leurrés. Nous nous en éloignions avec ennui. Chaque soir, quelle qu'eût été l'aventure de la journée ou les travaux de la nuit, me ramenait malgré moi aux tables vertes. Parmi les nombreux passants qui se succédèrent, je remarquai dès mon arrivée et durant tout mon séjour une joueuse d'une grande beauté. Elle s'y montrait à la fois assidue et négligente. Toujours assise à la même place, respirant les fleurs d'un bouquet qu'elle ne quittait jamais. Parmi tant de joueurs aux alternatives diverses, notre chance restait imperturbable, et cette continuité de fortune nous signala l'un à l'autre. On faisait cercle autour de nous, et M. d'Hamercœur n'était pas moins envié que Mme de Sérans. Une fois que je me trouvais auprès d'elle et que nous parlions de notre double bonheur dont la permanence nous étonnait, nous convînmes de confronter adverses nos chances et de voir celle qui céderait. L'épreuve résolue, on en fixa le temps, le lieu et le tête-à-tête. Ce fut par une belle nuit d'août que je m'assis en face de Madame de Sérans. Le peuple des joueurs bourdonnait de ce duel. On pariait déjà sur l'issue avant la rencontre commencée. De grandes sommes s'engagèrent. Chacun de nos gestes solitaires comportait son contre-coup et sa conséquence. De multiples intérêts dépendaient de la science de nos combinaisons et du hasard de nos atouts. Le salon de Madame de Sérans, où je me voyais seul avec elle, s'ouvrait par trois fenêtres sur un beau jardin dont les parfums venaient jusqu'à nous. Les bougies brûlaient, chacune son as de lumière. Madame de Sérans déposa sur la table son bouquet de roses. La plus belle pendait au bout de sa tige brisée, et ses pétales tombèrent un à un durant cette nuit pathétique. Les fines mains de la partenaire battirent les cartes flexibles. La partie commença. L'ange formidable, méchu redoublé, il méchu encore, puis de nouveau, puis encore, et toujours. Les sommes d'or s'empilèrent des jetons, en représentèrent d'autres. Madame de Sérans souriait doucement. Nous jouâmes des joyaux. Sa voix claire les nommait un à un. Les diamants lançaient leur feu, des rubis étincelèrent, des perles coulèrent goutte à goutte. Elle perdit. Nous jouâmes des domaines. Leurs noms sonores ou charmants les évoquaient à mesure. Châteaux parmi les forêts au fond d'avenue de Chenay ou à travers le rideau des pins. Maisons au bord du fleuve, blaireaux, brunes terres, prés verdoyants. Ferme où mugissent les taureaux, métairies où recoulent les colombes, sables et rochers, meules et ruches, et Madame de Sérans souriait toujours. Un silence intervient entre nous. Elle s'était levée, debout, en sa robe de moire verte, une main posée sur la table. Le parfum des fleurs entrait par les fenêtres ouvertes. Une pile d'or s'écroula sur le tapis. Une bougie rasa de sa flamme sa bobèche qui éclata. Nous nous regardâmes longuement. Madame de Sérans rougit comme si elle se sentait l'enjeu final. D'un geste qui la fit tressaillir, je lui montrai la carte où j'éparpillais les cartes que je tenais entre mes doigts. Les figures peintes me parurent grimacer un sourire. Les rois barbus ricanaient au valet grave. La hallebarde des uns se croisait au glaive des autres. Les reines respiraient leurs tulipes bigarrées. Je sentis que j'avais parlé sans savoir ce que j'allais dire, et une voix que je reconnus la mienne murmura lentement tandis que je conviais du geste la belle joueuse à reprendre pour la conclure la partie interrompue. « Tout, madame, disais-je, tout contre votre ombre. C'est ainsi que j'ai joué et gagné l'ombre de madame de Sérans. J'ai construit, pour en garder l'image à jamais, la maison magnifique. En des miroirs conserve en son cristal le reflet invisible sur lequel les portes se sont closes pour toujours. Elles ne s'ouvriront pas pour moi, et le merveilleux secret retournera vers la ruine du lieu qui le contient, à l'éternelle poussière où vont les êtres, les choses et leurs ombres.